Radio Okapi.
Le journal Miengumba Mulongo.
Bienvenue à tous à cette édition d'information en vue d'affronter et remporter les prochaines élections. Le Palu de Gizenga et le MLC de Bemba se rapprochent. Il l'a annoncé ce vendredi à Kinshasa après une rencontre politique. Le gouvernement congolais veut fermer les camps hébergeant des centaines d'ex-combattants FDLR et leurs dépendants au Nord Kivu, mais les concernés réclament quelques garanties sécuritaires avant leur retour au Rwanda. Exploitation illicite et à grande échelle du bois et des ressources minières dans la province de la Tchopo. Le ministre provincial en charge de mines se dit déterminé à y mettre fin après une mission officielle à Bafoussendé. À tous et à toutes, bonjour. Avant de développer les titres, d'abord cette information. Le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué ce vendredi dans la soirée le code minier tel qu'adopté par les deux chambres du Parlement. Objet de plusieurs tractations et contestations, dès la part de puissances minières, cette loi révisée a été adoptée à la grande satisfaction de Congolais. Notez cependant qu'à la lecture de cette ordonnance à la Radio-Télévision nationale congolaise, le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre les échanges avec les miniers qui sont par ailleurs des partenaires de la République démocratique du Congo. Rapprochement entre le parti lumumbiste unifié et le mouvement de libération du Congo auquel s'ajoute le Front pour le respect de la Constitution. Les deux partis ont officialisé leur rapprochement ce vendredi à Kinshasa devant la presse, après avoir échangé sur la situation politique du pays. Au cours de cet échange, le Palu de Gizenga et le MLC de Jean-Pierre Bemba ont discuté sur le processus électoral de manière à conjuguer leurs efforts pour gagner ensemble les élections à venir. Les détails, c'est avec
Au cours de cette rencontre, le Palu et le MLC ont évoqué la nécessité du respect du calendrier électoral publié par la CENI. Ils ont discuté sur la problématique de la machine à voter. Pour les deux parties, l'usage de cette machine doit requérir un large consensus de parties prenantes au processus électoral. Autre point de cette rencontre, interpeller le gouvernement sur la caution électorale et l'application de la loi sur le financement public des partis politiques. Luigi Gizenga, secrétaire permanent du Palu, qui a représenté son parti avec Adolphe Mouzito, fixe l'opinion sur le rapprochement avec le MLC.
Ce sont deux grands partis nationaux. Nous sommes en train de discuter quel sera le cadre de collaboration. Ici, nous parlons surtout d'enlever les différentes difficultés que nous pouvons trouver sur la voie de l'organisation des élections.
Fidel Babala, qui a représenté le MLC avec Alexis Lenga, donne le sens de leur rencontre avec le Palu.
La loi et la configuration tant politique qu'ethnique de notre pays nous incitent à aller vers une fédération de forces qui veulent réellement l'alternance dans ce pays. Nous allons continuer de contacter avec les uns les autres de façon à faire une fédération qui nous assure une victoire lors des prochaines élections.
À l'issue de cette rencontre, les délégations du Palu et MLC ont exprimé leur volonté de faire acte de leur échange aux organes de leurs partis respectifs pour la finalisation des attentes des deux partis.
Et au Nord Kivu, les militants de la Lucha ont exposé hier vendredi au rond-point de l'indépendance à Beni les photos de personnes qui sont mortes, victimes de l'insécurité et de l'instabilité politique dans le pays. Parmi les photos exposées figurent celles des massacres de Beni et de l'Ituri, la photo de Rossi Mukendi et des généraux Bauma et Mamadou Ndala. Ces jeunes disent vouloir ainsi interpeller les autorités du pays afin que prennent fin les massacres et les répressions sanglantes de manifestations pacifiques en République démocratique du Congo. Esaïe Liko, militant de la Lucha Beni, au micro de Christian Mapendano.
Nous avons voulu exposer ces images, c'est juste en mémoire de tous les compatriotes qui ont été victimes. Ce qu'on voulait dénoncer, pendant le règne, il y a eu autant de morts, notamment à Beni, à Kinshasa, au Kasaï et ailleurs. Une façon de dénoncer tout ce qui se passe, mais aussi interpeller les consciences de ceux qui sont devant nous, que le peuple n'a pas d'armes, mais plutôt c'est l'amour de la patrie qui nous motive. On a d'abord commencé par, pour la région de Beni, par les images des vaillants soldats qui ont combattu pour cette population, notamment les générales Mamadou, Mustapha Ndala et Bauma, paix à leurs âmes. Ensuite, nous avons exposé l'image de Rossi Mukendi, qui est décédé à la suite d'une répression sanglante de la part de notre police. Il y a aussi le collègue Eric qui est décédé en Bandaka et les autres compatriotes victimes de l'irresponsabilité de notre gouvernement.
À Kinshasa, la capitale, c'est plutôt le député national Jean-Marie Gapé-Monoko qui appelle les filles et fils de son terroir à privilégier la paix et la concorde entre les différentes tribus. L'élu de Kungu pense qu'il est urgent d'éviter l'escalade de la violence entre les peuples qui sont condamnés par la nature de vivre ensemble. Il n'y a donc pas lieu de donner l'occasion aux esprits mesquins de s'aimer le désarroi dans le territoire de Kungu. Jean-Marie Gapé-Monoko l'a dit à Jacques-Yves Moli.
Les problèmes ont existé, existent, existeront. Mais étant donné que le verre est tiré, je leur demande de s'arrêter à ce niveau-là pour que l'État puisse intervenir. Sinon, nous allons assister à un scénario, Mounsaya et Nyele, les scénarios qui nous ont endeuillés jusqu'au jour d'aujourd'hui. La communauté Bosson-Dongo, la communauté Bosson-Mondembe partagent les mêmes sources d'eau, les mêmes écoles, les mêmes plantations, les mêmes champs. Et si aujourd'hui, s'ils entraient dans ces conflits internels, je vous dis, les conséquences seront néfastes. Et je demande au gouvernement d'intervenir de façon vigoureuse. Je vais demander moi également, état député, la descente d'une commission des bons offices pour un office et un réconfort moral. Je demande à la notabilité de toutes les communautés, que ce soit Bomboma, Bosson-Mondembe, que ce soit Bosson-Dongo, que les notables qui sont partout, à Guémena, à Kinshasa, partout ailleurs, Nous devons converger nos efforts ensemble pour que la paix revienne dans notre milieu.
Kanya Bayonga au Nord Kivu, le gouvernement congolais annonce pour bientôt la fermeture du camp hébergeant près de 400 ex-combattants FDLR et leurs dépendants. L'annonce a été faite mercredi à ces ex-combattants par le délégué du Premier ministre Bruno Tshibala, qui accompagnait une forte délégation composée notamment d'un représentant de la MONUSCO, satisfaction de la société civile de Kanya Bayonga. Mais pour le représentant de ces ex-combattants rwandais, sans le dialogue inter-rwandais, il leur sera difficile de regagner leur pays. Gisèle Cage nous fait le point depuis Kanyabayonga.
Pour le gouvernement congolais, ces ex-combattants doivent à présent regagner leur pays, le Rwanda, après avoir été cantonnés pendant plus de 3 ans à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero. La MONUSCO, pour sa part, annonce aussi qu'à cause des contraintes budgétaires, elle ne pourra plus prendre en charge ces ex-combattants et leurs dépendants. Pour le représentant de ces ex-combattants rwandais, pas question de retourner au Rwanda tant qu'il n'y aura pas un dialogue inter-rwandais. L'un d'eux, Ndayambaje Deo, s'exprime ici.
Nous avons volontairement désarmé. Nous n'avons pas été pris par la force. Avant notre désarmement, l'ONU ainsi que d'autres organisations internationales ont convenu avec nos responsables que s'ils nous désarment volontairement, ils vont nous aider pour qu'il y ait le dialogue inter-rwandais. Comme ils ont parlé avec nos responsables qui nous ont envoyés à ce sujet, nous gardons notre position.
La société civile de Kanyabayonga, elle, se réjouit de cette décision du gouvernement. Pour elle, la présence de ces ex-combattants constituait une source d'insécurité dans la région. C'est depuis plus de 3 ans maintenant que 372 ex-combattants et leurs dépendants sont cantonnés à Kanyabayonga. Plus de 800 autres se trouvent au camp Bauma à Kisangani. De Kanyabayonga, Gisèle Cajan, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le ministre provincial en charge de mines et environnement se dit déterminé à mettre fin à l'exploitation illicite à grande échelle et désordonnée du bois et des ressources minières. Cyprien Herry Baraka l'a dit jeudi dernier au cours d'un point de presse qu'il a animé à l'issue de sa mission officielle dans les territoires de Bafassende. En février dernier, un constat amer a été fait dans ce secteur des mines et environnement. Un pillage systématique des richesses de la province de la Tchopo par des exploitants miniers et forestiers, congolais ou étrangers, sans se conformer à la législation congolaise en la matière. Cyprien Herry Baraka dresse un bilan sombre de ce qu'il a vu et il décide de prendre le taureau par les cornes. On l'écoute dans cet extrait choisi par Donatien Aliana Alipanagama.
À l'issue du contrôle réalisé sur les cargaisons de bois d'œuvre, le constat a été déplorable, puisque amer. Dans le secteur des mines, les dragues ne sont pas enregistrées. Les tenanciers des dragues ne payent aucune taxe formelle. La présence des militaires et des policiers dans les foyers miniers, pas de renseignements sur les statistiques de production. Présence des étrangers dans l'exploitation artisanale, pratique odieuse des trafics de fiances autour des noms des autorités politiques, militaires, policières et d'autres services de sécurité du pays. En fait, la province de la Tchop n'a pas droit de bénéficier de ses ressources naturelles. C'est pourquoi, comme responsable du secteur en province, nous avons pris nos responsabilités en main en suspendant toutes les activités illicites constatées sur terrain pour exiger aux exploitants concernés le respect des textes légaux et réglementaires avant toute reprise des activités.
Et cette situation déplorable est due à la faiblesse de l'administration provinciale du sommet à la base, a souligné le ministre provincial Eri Baraka en charge de mines et environnement dans la province de la Tchopo. Retournons dans la capitale congolaise où les organisations de la société de l'environnement dénient au ministre du secteur d'initier de manière cavalière le processus de la révision du code forestier. Elles l'ont signifié dans une déclaration publique faite à la presse vendredi 9 mars, ici même à Kinshasa. Dans cette même déclaration, ces organisations condamnent aussi la réhabilitation de 3 contrats de concession foncière. Un extrait de cette déclaration, lu par Néné Maïnzana du réseau de communication environnementale, est recueillie par Honoré Missenga.
La révision du code forestier est un besoin déjà identifié, tant que tel par le programme de gestion durable des forêts, mais qui doit être précédé d'abord d'une revue sectorielle pour dégager un état des lieux général, suivi ensuite de la formule des lignes directrices de la gouvernance forestière dans le cadre d'une nouvelle politique nationale. Le réseau de la société civile, signataire de la présence, interpelle une fois de plus le ministre Ami Ambatov. Elle invite à collaborer et à faire collaborer les administrations et services de son ministère et les différents partenaires engagés à respecter les chantiers de la stratégie cadre nationale et son plan d'investissement RED+, qui ancre dans les projets de la révision du code forestier dans les programmes de gestion durable des forêts en cours de finalisation.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.